Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fréquence Mistral et c'est l'heure de Force 7, un magazine d'information préparé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Un dispositif solidaire dans les Hautes-Alpes pour lutter contre la précarité et la pauvreté. Jean-Claude Hérault en dit plus dans un instant. La maire de Valognes, Sandrine Cossera, a écrit un essai sur ses convictions et ses projets pour son territoire. Interview dans un instant. Les associations de tourisme sont inquiètes pour l'avenir des classes de découverte. Elles ont saisi la députée des Hautes-Alpes, Claire Boucher. Durant la crise sanitaire, les médiathèques de Provence-Alpes-Agglomération restent ouvertes et s'adaptent. Odile Frison a rencontré leur nouvelle directrice, Agnès Hailly. Le festival photographique de Pierre Vert est en préparation. Nous entendrons le président des Nuits photographiques, Stéphane Kosman. Dispositif original et solidaire dans les Hautes-Alpes.
À l'initiative de l'UDES 05 et avec un fort soutien du conseil départemental et de la préfecture de Gap, une action est en place pour lutter contre la précarité et la pauvreté. La crise sanitaire a des effets ravageurs sur nos concitoyens les plus pauvres et les saisonniers, par exemple, subissent une double peine. C'est ce qu'explique Jean-Claude Hérault pour l'Union des entreprises sociales et solidaires du 05 en détaillant ce dispositif durant un entretien avec Vincent Vacher.
Quand on a créé cette conférence permanente associative de la solidarité, j'étais encore président de l'UDES et les associations ont souhaité que ce soit l'UDES qui anime cette conférence, ce que j'ai fait avec beaucoup de satisfaction et j'ai trouvé que c'était une belle démarche. La nouvelle équipe qui a été mise en place au niveau de l'UDES m'a demandé de continuer à animer cette conférence, puisque je suis de nouveau administrateur, mais plus en première ligne au niveau de l'UDES. Et donc, je continue effectivement à animer cette conférence qui est importante et qui a été créée, comme vous l'avez rappelé, après le premier confinement. Et l'idée, c'était de faire en sorte que toutes ces associations de solidarité humanitaire travaillent ensemble pour mieux coordonner nos actions, pour mieux réfléchir. Et notamment, ça nous a permis de rencontrer Madame la Préfète le 5 mars, où on a évoqué avec elle toutes les questions qui tournent autour du logement, notamment le logement des jeunes. Vous savez que la crise actuelle que nous subissons pénalise en particulier les jeunes, les précaires, les pauvres, ceux qui sont déjà en difficulté, sont encore un peu plus en difficulté avec cette crise. Et donc, il était tout naturel que notre Union départementale d'économie sociale et solidaire se mobilise dans l'intérêt des plus pauvres et des plus précaires.
Oui, absolument. Et qui plus est, on est dans une région et dans un secteur où l'emploi saisonnier est très important. Et malheureusement, ces saisonniers se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain. Et ils sont tombés dans une précarité assez importante. Et de là, il y a plusieurs associations, comme par exemple aussi il y a la Croix-Rouge, il y a de l'aide alimentaire aussi, on peut évoquer ça. L'aide alimentaire, en plus avec des produits frais et locaux.
Oui, alors ça c'est vraiment complètement innovant, et souvent je dis c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le département, lors de la première du premier confinement, a mis en place un dispositif qui permettait de mettre des produits frais de qualité en circuit court à disposition via les associations humanitaires, à disposition des plus pauvres, des gens qui viennent dans les associations récupérer de l'aide alimentaire parce qu'ils n'arrivent pas à survivre avec leur revenu. Et après le premier confinement, on a créé cette conférence et dans les décisions qui ont été prises, ça a été de travailler sur les questions de logement, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi en priorité sur les questions d'aide alimentaire. Et donc, on a sollicité l'Agence de développement économique et touristique de Hautes-Alpes, le département, la DDCSPP pour ce qui concerne l'État, et on a obtenu à ce moment-là des financements pour le dernier trimestre de 2020. Et on a mis en place un dispositif, comme vous l'avez rappelé, qui permet aux associations de pouvoir bénéficier en circuit court de produits frais et qui leur permet de mettre à disposition ces produits frais aux plus pauvres, aux plus précaires. La bonne nouvelle, en quelque sorte, que je tiens à saluer, c'est que pour 2021, ce dispositif va être conduit, puisque le département devrait, dans le cadre de sa conférence permanente de la semaine prochaine, décider la reconduction des financements qui avaient été validés en 2020, et l'État également. Donc on va pouvoir avoir environ 200 000 euros pour l'année 2021, qui va être consacrée à financer, à aider les associations pour qu'elles puissent acheter des produits frais en circuit court avec tous les producteurs locaux du département. C'est une bonne nouvelle, bien évidemment, pour les plus pauvres, les plus précaires, comme je le dis souvent, mais c'est un dispositif, comme je dis aussi, gagnant-gagnant, parce qu'on souhaite, une fois qu'on sera sorti de cette crise et qu'on sera sorti du confinement, qu'on sera véritablement déconfiné, je l'espère, au mois de juin, mai ou juin, on pourra aussi mener des actions de prévention alimentaire avec l'aide du CODES et de la Mutualité française.
Voilà, il y aura une continuité dans ces actions qui ont été menées. Pour rappel, depuis le début du deuxième confinement, on va citer quelques chiffres, près de 5000 kilos de légumes, plus de 2000 kilos de fruits, et 1200 kilos de viande, 500 kilos de fromage, 13 000 yaourts, 1500 boîtes d'œufs ont déjà été livrées à une vingtaine de structures qui redistribuent cette aide alimentaire. On peut évoquer aussi le montant en euros de la deuxième enveloppe allouée pour l'aide alimentaire, 50 000 euros donnés par le département et 50 000 par l'État. Et là, vous avez cité 200 000, c'est ça pour
Le chiffre que je sais aujourd'hui, même s'ils ne sont pas tout à fait officiels. Pour l'instant, on a 150 000 euros du département pour l'année 2021. On a 34 000 euros de l'État. Alors, je suis en train de faire intervenir les élus nationaux pour qu'on essaie d'obtenir les 100 000 euros qui avaient été sollicités par la DDCSPP au plan national. Donc, pour l'instant, on a 150 plus 34, plus 15 000 euros de la MSA. Donc, on est encore un peu loin des 200 000 euros, mais j'espère qu'au niveau de l'État, ils vont un peu faire grossir l'enveloppe et qu'on va même atteindre les 200 000 euros, voire les dépasser. Donc, ça devrait nous permettre de continuer pour la totalité des mois de 2021 cette démarche. Et il faut savoir que on travaille aussi avec Échange Paysan, qui est une entreprise, vous le savez, de l'économie sociale et solidaire, qui nous a proposé, d'ailleurs on était en conférence il y a quelques heures encore, là, il n'y a pas longtemps, qui nous a proposé de voir comment on pourrait optimiser, on va dire, ce qu'on appelle la ramasse, puisque vous savez que les associations caritatives de solidarité ramassent, vont auprès des grandes surfaces, récupérer les invendus, pour pouvoir les redistribuer. Et donc, on sait bien que cette mécanique qui est mise en place et qui est très importante, hein. Et moi, je rends hommage à tous les bénévoles qui font ce travail quotidiennement. On va essayer de voir comment on peut encore l'améliorer, cette ramasse, pour qu'on soit encore plus efficace et que, ce faisant, on lutte aussi contre le gaspillage alimentaire et faire en sorte que, on récupère un maximum de produits encore bien entendu consommable, hein, il n'est pas question de ne pas respecter les lois et qu'on mette ces produits à disposition des familles aujourd'hui en très grande difficulté. Vous parlez des saisonniers, il faut savoir que dans les saisonniers il y a deux catégories, souvent c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, même quand il n'y a pas la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a les saisonniers qui, ma foi, avaient un contrat de travail, une promesse d'embauche, eux, bon, ils roulent pas sur l'or, mais ils ont pu avoir ce qu'on appelle le chômage partiel ou l'activité partielle. Par contre, il y a bon nombre de salariés, notamment des jeunes qui envisageaient d'être salariés saisonniers pour cet hiver-là, 2020-2021, et qui n'ont pas eu de contrat, pas de promesse d'embauche, qui eux, comme ils sont souvent très jeunes, ils n'ont pas le RSA et qui sont en très très grande difficulté. Mm-hmm. Et du coup, ce dispositif vient les aider, vient soutenir le travail que fait les associations caritatives et de solidarité.
Voilà, et pour cela, réunissons les forces vives et le point d'orgue de ralliement, c'est l'UDES 05. Ouais. On vous invite à aller faire un tour sur le site www.udes05.org. Ouais. Et là, vous avez un volet spécifique « Agir ensemble contre la pauvreté et la précarité ». Et vous pouvez aussi télécharger 11 propositions pour agir contre la pauvreté et la précarité.
Exact. Donc,
voilà, vous pouvez forcément agir, vous aussi, si vous écoutez cet entretien actuellement.
On pense qu'il faut que dans cette période qui est compliquée pour tout le monde, hein, on voit bien tout le monde souffre parce que ça dure depuis plus d'un an et que ça commence à être très très long et très très dur à vivre. Mais je pense que dans cette période, il n'y a qu'une solution. Il faut être solidaire entre nous. Il faut soutenir les plus faibles et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos petits moyens. Mais avec vraiment la volonté d'être efficace et de pouvoir se dire que ma foi, malgré la crise, malgré l'aggravation de la pauvreté, il y a des gens qui continuent quand même à être logés, à pouvoir se nourrir. Ça me paraît essentiel dans un pays moderne comme le nôtre. On dit souvent qu'on est la cinquième ou la sixième puissance du monde. On va quand même pas laisser les gens dans la rue et les gens sans se nourrir, qui est quand même la base d'un être humain.
Volonne, Sandrine Cossera publie un livre pour avancer.
Clin d'œil au slogan des Alpes de Haute-Provence, « Irrésistiblement vôtre » est un essai qui dresse les aspirations d'une élue locale de zone rurale. Maire de Volonne, conseillère départementale et vice-présidente de Provence-Alpes Agglomération, Sandrine Cossera entend partager son expérience et ses projets pour le territoire, maintien des services publics, développement durable et des dossiers innovants comme son éco-quartier volonnais. L'élue avance des pistes de développement dans un ouvrage limpide et accessible. Elle répond aux questions de Chris Alessandri.
Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que en écrivant, en fait, on fixe les idées, on précise la pensée, on la structure aussi. C'est ce qui m'a intéressé dans l'acte d'écrire.
C'est la femme de cœur qui est là, c'est la femme de terrain également, avec toute son expérience et puis cette volonté que vous avez de presque acharner aussi pour le territoire.
Ouais, quand on se lance comme ça dans la vie publique, en fait, on découvre au fur et à mesure qu'on peut agir. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de démontrer, en fait, la capacité que nous avons de façonner humblement, hein, à l'échelle de nos territoires, pour ce qui me concerne déjà de mon village, un certain nombre de façons de vivre ensemble qui me paraissent intéressantes.
À l'origine, vous êtes quand même, il faut le dire, hein, vous êtes bretonne, vous êtes normande, vous êtes parisienne, vous êtes loin des Alpes de Haute-Provence. Ce coup de cœur, il est arrivé comment ?
Voilà, effectivement, mes origines, hein, j'ai de la famille bretonne et normande, par contre j'ai grandi en banlieue parisienne, puis après mes études m'ont menée sur Lyon, et finalement mon premier emploi m'a amené ici dans les Alpes de Haute-Provence, et je crois que j'ai eu un coup de cœur pour ce territoire. Je crois que j'ai jamais vraiment été citadine. Je crois que je suis vraiment franchement rurale dans mes aspirations, dans mes choix de vie. Et cette ruralité, je trouve qu'elle a une force, je trouve qu'elle a une âme. Et mon souhait, c'est de la préserver et se développer.
Cet attachement pour les Alpes de Haute-Provence, il est venu comment ? Est-ce qu'il y a eu vraiment un déclic ? Comment ça s'est passé ?
Je crois que c'est d'abord un attachement aux gens. Hein. Peut-être je me serais retrouvée dans un autre endroit, dans une autre usine. Peut-être j'aurais développé ce même souhait d'ancrage territorial. En fait, c'est plutôt le choix d'une famille nombreuse. Et du coup, de faire grandir mes enfants dans un endroit où je trouvais que le vivre ensemble avait du sens. C'est ça qui m'a, pour moi, a été à la base de cette position ici. Et puis après, prendre le temps d'échanger avec les gens, puis d'apprécier finalement ce qui fait notre quotidien.
Sandrine Cossera, vous êtes maire de Volonne depuis 2014. Pour jeter un petit coup d'œil dans le rétro, ces années qui ont défilé, comment est-ce que vous les vous avez vécues ? Comment est-ce que vous les analysez à présent ?
Alors, elles ont été actives, engagées. Ce qui m'a plu, c'est de travailler avec l'équipe municipale, avec les habitants, développer un projet, notamment pour un village qui avait beaucoup d'atouts, de qualités, de pouvoir les révéler. Et puis, de maintenir ce qui fait la vitalité d'un village, hein, les commerces de proximité, les écoles, les services à la population. Je crois que là, il y a un enjeu extrêmement fort. Cet enjeu, il est le même pour beaucoup des villages de notre territoire et globalement des villages ruraux. Et c'est vrai que ça m'a vraiment plu de travailler sur cette articulation. Tout est cohérent, en fait. Hein. Il faut s'attacher à maintenir cette vitalité parce que c'est aussi, ce sont des lieux où on vit bien. Donc, c'est bien de garder la vitalité de nos villages. Et aujourd'hui, c'est aussi ça que j'ai voulu transcrire dans le livre Irrésistiblement Vôtre. Je crois que nous avons la capacité à créer ce cercle vertueux, en fait, hein, où finalement, en revalorisant les espaces publics, en maintenant les écoles, en créant une dynamique, en soutenant le commerce de proximité, on arrive à... Et aussi toutes les activités, hein, des associations, donc être à leur écoute, leur donner les capacités à porter des projets. C'est ce qui fait qu'on maintient une vie de village qui a une âme.
Irrésistiblement Vôtre, c'est toute une réflexion également. Il y a beaucoup de vous-même, vous vous dévoilez en quelque sorte.
Oui. Je pense qu'il faut donner un peu de soi aussi, hein, pour pouvoir avancer, donner à comprendre. Dans ce livre, j'ai voulu expliquer le sens de mon engagement. Ce livre, en fait, ça faisait des années que j'avais commencé à l'écrire. Quand on a vécu comme ça à la ville et qu'on découvre la vie ici... dans nos campagnes, je trouve qu'on découvre une façon de vivre beaucoup plus humaine, beaucoup plus à taille humaine. Je suis contente, en fait, d'être allée au bout de plusieurs sujets qui sont aujourd'hui les forces et les faiblesses de notre département, d'approfondir le sujet notamment des énergies nouvelles, parce que je crois qu'on a un département qui a un gros potentiel sur ce sujet-là. Je voulais pas non plus qu'il soit trop long, parce que je voulais qu'il soit accessible à la lecture. Hein. Là, il se lit en une heure et demie. Et en fait, ce qui est important quand on écrit un livre, c'est de trouver le fil conducteur. Et là, c'est vrai que ce qui m'a donné, on va dire, le fil conducteur, c'est de replacer cet écrit, finalement, dans le cadre des départementales. Je suis contente d'avoir pu, sur ce livre, finalement, proposer un projet. D'ailleurs, je le mets en introduction, hein, un projet pour les Alpes de Haute-Provence.
Avec cet ouvrage, il y a effectivement ce côté déclencheur que vous avez sur la renaissance rurale, hein, que vous amenez. Il faut vraiment s'éveiller à ça, et vous êtes le lien.
Voilà, en fait, une ruralité modernisée, c'est-à-dire qui garde ses atouts, sa naturalité, et qui en même temps propose un cadre de vie tourné vers ce que la modernité propose, c'est-à-dire une ruralité connectée. Alors, c'est vrai que moi, ce que je souhaite, c'est donner corps à cette ruralité modernisée, c'est-à-dire, alors, pas ne faire qu'en parler. C'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est l'action. Hein, voilà. C'est pour ça que là, on a créé avec un groupe, une association, enfin, ce qui s'appelle Nouvel Horizon 04, hein, et qui vise en fait à rassembler autour d'une association. Donc, dès lors qu'on passe du livre à l'association, c'est pour aller vers l'action, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de personnes qui travaillent, hein, sur plusieurs groupes de travail. Et moi, ce que j'aimerais, alors c'est assez innovant, hein, c'est que sans se poser la question des étiquettes, bah là, je me dis, ce qui serait bien pour les départementales, qu'on puisse réunir une équipe d'intérêt départemental, mais autour d'un projet, en fait. Voilà, de la même façon qu'on porte un projet communal, là, on porterait un projet départemental.
De quelle façon peut-on se procurer l'ouvrage ?
Alors déjà, moi, je l'ai en format électronique et je l'envoie volontiers et donc gratuitement. Pour ça, il suffit de m'écrire. Donc, mon adresse, c'est sandrine.cossera@@caliance.fr. Je l'ai déposé dans plusieurs librairies, à Château-Arnoux, Sisteron, Fort-Calquier, Digne-les-Bains. Sinon, on peut aussi m'envoyer un petit mail, je peux l'envoyer. Alors, son prix est volontairement un prix juste à prix coûtant, hein, donc à 5 euros. J'ai voulu vraiment que ce soit un ouvrage qui soit très accessible. Je crois que ce projet qui est proposé, c'est un projet qui plaît. Et d'un autre côté, la question, c'est qui va l'incarner. Donc moi, je me mets à la disposition de toute personne qui souhaiterait incarner ce projet. Je suis là pour nourrir la réflexion, pour proposer des méthodes de travail et pour faire en sorte, bah, finalement, que notre département, notre irrésistible département, le soit demain plus encore.
Provence Alpes Agglomération maintient l'ouverture de ses médiathèques.
Elles allient culture, social et convivialité et sont appréciées de tous, jeunes et moins jeunes, comme des familles. Pour rester en contact avec leur public, ces établissements s'adaptent aux restrictions imposées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. C'est ce qu'explique Agnès Haïli, qui dirige les médiathèques de Provence-Alpes Agglomération à Digne-les-Bains. Elle répond aux questions d'Odile Frison.
Agnès Haïli, qu'est-ce qui change avec les nouvelles dispositions prises par le gouvernement pour la médiathèque et ses activités ?
Donc il y a trois bibliothèques qui dépendent de Provence-Alpes Agglomération. C'est celle de Digne, la bibliothèque François Mitterrand, celle de Château-Arnoux et celle d'Aimé. Et donc suite aux nouvelles annonces gouvernementales, en fait, les bibliothèques vont continuer d'ouvrir à leurs horaires d'ouverture habituels. Il y aura seulement pour la médiathèque de Digne-les-Bains une fermeture anticipée le mardi à la place de 19h, c'est 18h. Mais sinon, donc les médiathèques de Provence-Alpes-Aglo restent ouvertes dans les 4 semaines qui arrivent. Et puis, donc, on est aussi en réseau avec d'autres bibliothèques, avec 10 autres bibliothèques sur le territoire. On n'a pas eu le temps de les contacter toutes, mais a priori, toutes celles qu'on a contactées vont rester ouvertes. Donc les bibliothèques de Mézel, Estoublon, Saint-Jur, Stoard, Malmoisson pour la semaine qui arrive sera ouverte, et puis le Brusquet.
Les horaires d'ouverture sont inchangés par rapport à avant ce nouveau confinement.
Exactement, les horaires d'ouverture sont inchangés, donc en fait les abonnés peuvent les retrouver sur le site des médiathèques de moyenne durance pour les bibliothèques de Château-Arnoux et d'Aimé, et sur le site en tapant médiathèque François Mitterrand Digne-les-Bains. Là aussi il y aura les horaires du mardi au samedi.
Donc ça c'est ce qui concerne donc pour tout ce qui est prêt de livres, de médias.
Oui.
Sinon en matière d'animation, en fait tout ce qui avait lieu au sein de la médiathèque, tout ça se termine.
Alors, de toute façon, on n'avait pas été autorisé à reprendre toutes les activités qui impliquaient un brassage de population, en fait un brassage de lecteurs. Donc, tout ce qui était, par exemple, club des lecteurs, visite d'exposition, conférence, heure du compte, toutes ces activités-là, en fait, on n'a jamais été autorisé à les reprendre. En effet, actuellement, ce qui existe, c'est la possibilité de venir à la bibliothèque, de rendre des documents, de se balader dans les rayons, de choisir, de demander conseil au bibliothécaire, puis d'emprunter. Donc il y a aussi une possibilité pour les gens qui ne se déplacent pas et qui aiment consulter les films en ligne, il y a une possibilité d'avoir accès à une offre qui s'appelle Arte VOD, c'est la vidéo on demand, à partir du site de la médiathèque.
Donc ça, expliquez-moi comment ça fonctionne.
Alors en fait, il faut déjà être abonné, il faut au moins être venu une fois à la bibliothèque, il faut être abonné, et ensuite à partir du site de la bibliothèque, donc médiathèque-digne.fr, il faut se connecter avec son identifiant et son mot de passe. Et à partir de là, ça donne accès à tout un catalogue de films à visionner en ligne.
Et c'est gratuit donc ?
Voilà, une fois qu'on est abonné à la bibliothèque, c'est gratuit.
Ces films, ça n'a rien à voir avec les films que vous avez en DVD ?
Alors en fait, ça complète l'offre. C'est deux offres qui sont complémentaires, avec des films que parfois on va retrouver sur les deux plateformes, sur la plateforme numérique et puis dans les rayonnages. Et puis parfois on les aura que sur la plateforme numérique. Et là, les bibliothécaires peuvent expliquer le fonctionnement quand les abonnés viennent à la bibliothèque.
Sinon, pour les mesures sanitaires, donc évidemment, il y a le gel
hydroalcoolique, oui.
Il y a un certain nombre de personnes qui sont autorisées à rentrer en même temps.
Oui, alors en fait, c'est pour ça dans chacune des trois bibliothèques, une personne est à l'entrée, et un agent de la bibliothèque est à l'entrée, vérifie d'une part en effet qu'une jauge n'est pas dépassée, donc pour la bibliothèque de François Mitterrand qui est à Digne-les-Bains, on ne peut pas dépasser 40 personnes en même temps dans le bâtiment. On demande à chaque personne de mettre son masque et de le mettre correctement, c'est-à-dire le masque doit bien couvrir le nez et la bouche et si possible ne pas tomber trop facilement. Et les personnes sont aussi invitées à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique à l'entrée. On demande aussi aux gens, parce que la bibliothèque, ça a aussi un lieu de lien social. Donc les gens aiment à s'y rencontrer, à échanger longuement. On essaye d'éviter qu'il y ait des échanges un peu trop longs. Alors c'est un peu contradictoire avec le rôle habituel de la bibliothèque. Et puis une dernière chose, c'est que on empêche aussi aux gens de s'asseoir. C'est-à-dire la consultation des ouvrages sur place n'est plus possible. Et sachez aussi que dans le cadre des mesures sanitaires, On a un nettoyage de tous les documents qui nous sont rendus. Donc on les laisse en quarantaine pendant 2 jours. Et ensuite, tous les documents sont tous lavés avec un liquide qui est un peu comme le gel hydroalcoolique. Donc là aussi, les documents qui sont en rayon, après ils peuvent avoir été touchés par d'autres lecteurs, mais on les remet en rayon après qu'ils aient été bien nettoyés. Donc l'équipe est très très mobilisée, les équipes des bibliothèques sont très mobilisées et mettent beaucoup d'énergie pour accueillir le public dans des bonnes conditions.
Et l'effectif des salariés de la médiathèque est au complet ?
Alors l'effectif est quasiment complet, donc on sait que les écoles, les crèches, les collèges et les lycées sont fermés. Donc évidemment, les parents, l'enfant qui font l'école à la maison ont pu être mobilisés chez eux pour suivre la scolarité. Donc l'équipe n'est pas complètement au complet, mais on va réussir, on va tout mettre en œuvre. Les bibliothécaires sont dévoués et très motivés, donc ils mettent tout en œuvre pour continuer à accueillir le mieux possible.
J'ai envie de vous demander de revenir sur votre arrivée à Digne, puisque j'ai manqué ce changement de direction. Vous venez d'où ?
Alors, sur mon poste précédent, j'étais déjà à Digne. J'étais à la préfecture là, de Digne-les-Bains, sur le poste délégué de Madame la Préfète sur la politique de la ville, donc qui concerne les quartiers prioritaires de Digne et de Manos. Et puis sinon, précédemment encore, j'ai travaillé depuis plusieurs années en bibliothèque à Marseille et puis dans le Jura aussi. Et puis à la bibliothèque départementale des Alpes de Haute-Provence, sur mon avant-dernier poste.
Vous arrivez pour Digne, en tout cas, dans la médiathèque, avec cette crise qui
ne
finit pas, donc c'est quand même bien particulier.
C'est ça, c'est pas exactement ce qu'on souhaite quand on travaille en bibliothèque, parce qu'on a envie de pouvoir porter des projets culturels, des projets de travailler en partenariat, de faire que justement les gens se rencontrent, échangent, c'est tout l'aspect lien social. Et culture, et puis bon, ben là c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça fait aussi partie du travail de directeur d'établissement culturel. Alors bon, ça m'amène à rencontrer à la fois l'équipe, les lecteurs, les partenaires dans des conditions très particulières. J'aimerais vraiment pouvoir que ça s'arrête et pouvoir rencontrer tout le monde à la fois en réel, on va arrêter un peu les visios, puis qu'on puisse proposer des choses plus ambitieuses. Là c'est vrai qu'on est déjà heureux d'être un établissement culturel où on peut encore faire des choses, c'est quand même important. Vivement qu'on puisse en faire encore un petit peu plus, oui.
La députée Claire Boucher défend les classes découvertes.
Interpellé par le président régional des associations de tourisme, Yannick Gallien, sur l'avenir des classes découvertes et des voyages scolaires, la députée des Hautes-Alpes, Claire Boucher, a interpellé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Instant d'apprentissage privilégié, ces séjours collectifs ont fait leurs preuves depuis des décennies et participent au développement socio-économique de nos territoires, à plus forte raison, en dehors des périodes de forte activité touristique. Claire Boucher répond aux questions de Laura Giraud.
Claire Boucher, vous êtes députée. On va parler de l'avenir des classes découvertes des voyages scolaires. Vous avez interpellé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, il y a peu.
La semaine dernière, oui.
Pourquoi ?
Je l'ai interpellé parce que j'ai reçu de la part de l'UNAT. L'UNAT, donc PACA, qui est lié au tourisme, au service des hommes et des territoires, une interpellation un peu forte par rapport, c'est l'Union nationale des associations, je cherchais le nom, de tourisme et de plein air. Donc j'ai très sensible à ce contexte et à cet enjeu qui pour moi est un enjeu social et sociétal très fort, faire en sorte que les enfants soient en classe de découverte et fassent des sorties scolaires. L'idée, c'est que je pense que par rapport à la pandémie, ce que je souhaitais aussi, c'est que au niveau national, à la sortie du confinement, il y ait une campagne de relance grand public visant à rassurer les familles parce que à combattre ce climat que nous vivons tous, un climat anxiogène actuel. Et donc, inciter le ministre de l'Éducation nationale à mobiliser les rectorats parce que c'est par eux que ça passe et les directions départementales académiques pour qu'ils accompagnent et qu'ils mobilisent les directeurs des établissements et les enseignants à organiser des séjours. Parce que tous ces gens-là, tout le monde est frileux, tout le monde est derrière son masque et je pense que nos enfants ont besoin d'hygiène et de santé, enfin par rapport à l'hygiène, par rapport à leur santé médicale, leur santé psychique et leur santé sociale. Donc les enfants ont vraiment besoin de sorties scolaires, de classes de découverte pour sentir un petit peu ce qui se passe hors de sociétaux, enfin que ce soit à l'école, que ce soit dans leur lotissement, enfin dans leur lieu de vie, on va dire.
Les Nuits de Pierre Vert sont en préparation.
Ce sera la 14e édition du festival dédié à l'image. Pendant plusieurs jours, grâce à une équipe de passionnés dont des professionnels, les Nuits photographiques animent le village d'or qui a su leur faire une belle place. En accueillant des photographes de renom comme Peter Knapp, Oliviero Toscani ou bien encore Yann Arthus Bertrand en 2020, la manifestation s'installe dans notre été culturel. Mais là où les nuits innovent, c'est en mettant un focus sur des jeunes artistes ou des professionnels méconnus. Ainsi, cette année, aux côtés de Paolo Roversi, grand nom de la photo de mode, il y aura une jeune américaine venue d'Alabama. Sydney Foster sera en résidence au golfe de Pierre Vert à l'invitation du festival et avec la complicité de Philippe Berru, patron des lieux. Sans oublier plus d'une cinquantaine d'invités qui assurent des expositions, projections et rencontres toujours passionnantes. Soutenus par la municipalité de Pierre Vert, l'agglomération Manosquine, la région et le département, les nuits ont aussi des sponsors privés et surtout de nombreux bénévoles, notamment des habitants du village, qui hébergent les invités, photographes, éditeurs, etc. Rendez-vous fin juillet à Pierre Vert et pour l'instant, écoutons Stéphane Kosman, président et fondateur du festival, qui nous a présenté l'édition 2021 au golfe du Luberon. Stéphane Kosman, la 14e édition des Nuits photographiques de Pierre Vert est en préparation.
Tout à fait. 14e édition déjà. Quand je pense qu'on a commencé, personne ne connaissait Peter Knapp. Et cette année, Peter fête ses 90 ans. Donc on aura la joie et le bonheur de le retrouver. Il vient pas tout seul, il vient avec Paolo Roversi, très grand photographe de mode. Je dis souvent que c'est un peu la version masculine de Sarah Moon, donc une vraie signature photographique, un vrai gentleman, un monsieur qui doit avoir à peu près un peu plus de 70 ans, qui a beaucoup de campagnes, notamment pour Dior. Donc on est très content du côté de l'équipe artistique emmenée par mon ami François-Xavier Emery et Frédéric Babin. Ils ont réussi à convaincre Vincent Munier que tous les passionnés de littérature connaissent à travers La Panthère des Neiges, puisque Sylvain Tesson a accompagné Vincent Munier dans sa quête. Donc, j'ai sorti un très beau livre qui a été primé, je crois. C'est pas mon bouquin préféré de Tesson, mais j'ai apprécié de lire cette quête, quoi.
Vincent Munier sera exposé à la Fondation Carzou pendant plusieurs mois d'ailleurs.
Carzou, oui, puisqu'on récupère cette année, puisque l'année dernière c'est notre ami Hans Sylvester qui avait, dans l'année Giono, exposé à Carzou, mais cette année on récupère l'espace. Vincent exposera aussi au centre Giono, en plus de la Fondation Carzou. Donc il y aura une espèce de triple exposition, puisqu'on a. Ces images vont investir trois lieux différents, trois salles différentes, donc très grosse exposition.
Vous avez en ce moment sélectionné pas mal de photographes qui vont venir et vous avez choisi l'artiste en résidence qui viendra. C'est une jeune photographe américaine qui viendra d'Alabama.
Tout à fait, Sydney. Sydney, je l'ai rencontrée il y a quelques années maintenant. L'an dernier, je voulais déjà qu'elle vienne en résidence, mais Frédéric et François-Xavier avaient déjà choisi l'artiste en résidence. Entre-temps, il s'est passé la première édition du Festival de Selma. Vraie réussite aussi. Sydney a reçu le prix du public à Selma. Donc, on espère qu'elle sera là pendant le festival, puisque là, on est comme tout le monde. Hein, il y a les conditions de la Covid font qu'on ne peut pas voyager librement. Donc on espère qu'elle sera présente sur le festival et deux semaines après le festival.
Stéphane, il y a une thématique dans la photographie qui est en train de grimper depuis déjà quelques années. C'est celle du développement durable et de l'environnement. La 14e édition sera marquée aussi par cette thématique.
Alors oui, notre jeune Marie Cor, comme on dit, qui s'occupe de la scénographie des expositions. Cette année, monte en puissance, puisqu'elle vient avec elle a constitué une équipe, et elle nous propose d'investir la salle polyvalente avec plusieurs photographes qui traitent de ce qui se passe au niveau de l'écologie et des énergies renouvelables. Ça promet d'être intéressant. Moi-même, je m'y intéresse aussi. On a hâte de voir ce qu'elle nous propose. En tout cas, c'est une carte blanche à Marie. Et de toute façon, ce sera la relève, hein, puisque nous, on ne sera pas là éternellement. Il faut bien mettre en place une équipe beaucoup plus jeune que nous.
Il y a aussi un projet important, intéressant, qui est développé par François-Xavier Emery et qui concerne la jeunesse.
Oui, alors c'est un projet qui, en fait, l'an dernier, quand Almami Kanouté était avec nous, donc un des acteurs des Misérables, en se baladant dans les rues du village, les jeunes l'ont tout de suite reconnu, donc il y a eu une petite effervescence. Il y a un début de projet qui s'est initié à ce moment-là. Almami est travailleur social en banlieue parisienne, donc il a les contacts, c'est un homme de terrain. On a un projet de faire travailler des jeunes de banlieue parisienne pour qu'ils viennent nous proposer leurs travaux ici à Pierre-Vert. Et inversement, les jeunes pierre-verdants vont s'investir aussi. On aimerait faire travailler un photographe qui était là à l'édition précédente. Malheureusement, j'ai oublié son nom. J'ai envie de dire Mathieu, mais je ne suis pas sûr. En fait, c'est un photographe qui a fabriqué lui-même sa chambre photographique. Il part dans la nature et dans la nature, il trouve ses ingrédients pour fabriquer son révélateur. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Et j'aimerais bien que ces jeunes s'investissent avec lui et on voit comment on peut mettre ça en place.
Rendez-vous fin juillet, si tout va bien ?
Oui, tout ira bien. De toute façon, on l'a fait l'an dernier, on le refera cette année. On a un théâtre de verdure exceptionnel, ce qui nous permet de nous distancier. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas cette année.
Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour Force 7.
Merci Olivier, à bientôt.